Livre 6, premier verset. C'est pourquoi, laissant la parole du commencement du Christ, avançons vers l'état d'homme fait, ne posant pas de nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes et de la foi en Dieu, de la doctrine des ablutions et de l'imposition des mains, et de la résurrection des morts et du jugement éternel. Et c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté du don céleste et qui sont devenus participants de l'Esprit Saint et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les miracles du siècle à venir et qui sont tombés soient renouvelés encore à la repentance, crucifiant pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposant à l'opprobre. Car la terre qui boit la pluie qui vient souvent sur elle et qui produit des herbes utiles pour ceux pour qui elle est aussi labourée, reçoit de Dieu de la bénédiction. Mais si elle porte des épines et des chardons, elle est réprouvée et trait de la malédiction et sa fin est d'être brûlée. Mais nous sommes persuadés, en ce qui vous concerne, bien-aimés, de choses meilleures et qui tiennent au salut, quoique nous parlions ainsi. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant servi les saints et les servant encore. Mais nous désirons que chacun de vous montre la même diligence pour la pleine assurance de l'espérance jusqu'au bout, afin que vous ne deveniez pas paresseux, mais imitateurs de ceux qui, par la foi et par la patience, héritent ce qui avait été promis. Car lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, puisqu'il n'avait personne de plus grand par qui jurer, il jura par lui-même, disant, certes, en bénissant, je te bénirai, et en multipliant, je te multiplierai. Et ainsi, Abraham, ayant eu patience, obtint ce qui avait été promis. Car les hommes jurent par quelqu'un qui est plus grand qu'eux, et le serment est pour eux un terme à toute dispute, pour rendre ferme ce qui est convenu. Et Dieu, voulant en cela montrer plus abondamment aux héritiers de la promesse l'immutabilité de son conseil, est intervenu par un serment, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il était impossible que Dieu mentît, nous ayons une ferme consolation, nous qui nous sommes enfuis pour saisir l'espérance proposée, laquelle nous avons comme une ancre de l'âme sûre et ferme et qui entre jusqu'au dedans du voile où Jésus est entré comme précurseur pour nous, étant devenu souverain sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. Jusqu'ici la lecture de la parole. Ce chapitre est un chapitre très difficile, un chapitre où il y a beaucoup de confusion et de dissension. J'aimerais, avec l'aide du Seigneur, simplement tracer quelques lignes dans ce chapitre. Et d'abord, pour nous, c'est important de comprendre que l'auteur de cet épître s'interrompt quelquefois pour donner des avertissements. Donc, il enseigne. C'est vraiment un enseignant qui parle dans cet épître. C'est comme un long sermon. Et il s'interrompt quelquefois, cinq fois, pour appliquer ce qu'il a dit et puis pour avertir. On a vu cela chapitre 2, verset 1 à 4. On a vu cela chapitre 3, verset 7 jusqu'au 4, 13. C'est une parenthèse plus longue. Et la dernière fois, on a vu que le troisième avertissement commence au chapitre 5, verset 11. Lorsque l'auteur Paul, évidemment, a introduit ce beau sujet de Christ comme souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, il s'interrompt. Donc on a vu déjà qu'il aime présenter la grandeur de Christ, plus grand que les anges, plus grand que Moïse, plus grand qu'Aaron. Et maintenant, il va parler du Seigneur Jésus comme souverain sacrificateur, pas seulement selon l'exemple d'Aaron, il est beaucoup plus grand qu'Aaron, mais selon l'ordre qui est préfiguré dans l'Ancien Testament par Melchisédek. Et la prochaine fois, Dieu voulant, chapitre 7, on va parler en détail de ce Melchisédek. Mais ici, au chapitre 5, verset 11, Paul voulait dire beaucoup de choses, mais il a dit qu'ils sont difficiles à expliquer. Pourquoi étaient ces choses difficiles à expliquer aux auditeurs ou à ceux qui ont reçu cette lettre? Puisque vous êtes devenus paresseux à écouter. Maintenant, il faut se rappeler le contexte. Il y avait donc les Juifs à Jérusalem et aussi en Judée qui étaient persécutés. On voit cela déjà dans l'épître de Jacques. Ils ont subi beaucoup de persécutions et ils étaient dans un état difficile, dans une condition difficile, dans une situation difficile plutôt. Et dans cette situation difficile, ils considéraient la possibilité de retourner au judaïsme. Ils étaient des croyants qui ont confessé le bon nom du Seigneur Jésus, mais à cause de toute cette pression, ils voulaient pour un temps retourner au judaïsme pour, ça c'était la pensée, pour après la persécution, revenir au christianisme. Et puis, ça c'est le sujet un peu du chapitre 6, pour montrer que cette pensée était vraiment impossible. Et on verra pourquoi. Donc, chapitre 5, verset 12, nous voyons l'avertissement. Ils étaient devenus paresseux et ils étaient stagnants. Au lieu de progresser, il dit dans le temps, vous auriez dû être des docteurs, mais au lieu de pouvoir enseigner d'autres, au lieu de pouvoir aider d'autres, vous avez besoin de nouveau qu'on vous enseigne quels sont les premiers rudiments des oracles de Dieu. Donc, l'ABC, les principes de base. Et ensuite, il explique qu'ils n'avaient pas la capacité de recevoir la nourriture solide. La nourriture solide va ensemble avec Christ dans la gloire. Cet épître nous présente Christ dans la gloire. La nourriture solide est par rapport à cette nouvelle vérité que Christ, il a maintenant un homme dans la gloire. Dans le judaïsme, cela était inconnu, évidemment. Et même selon ce que les Juifs connaissaient dans les évangiles, ils ne connaissaient pas un Christ glorifié. C'était inconnu. Mais dans le restant du Nouveau Testament, spécialement par le ministère de Paul, nous voyons comment Christ est maintenant dans la gloire. Il y a maintenant un lien entre lui et nous sur la terre. Mais pour entrer dans ces vérités-là, cette parole de la justice, verset 13, il fallait être des hommes faits. Ça veut dire la maturité spirituelle. Il ne faut pas confondre cela avec notre position en Christ. Notre position en Christ est parfaite. Personne ne peut ajouter à ça, personne ne peut améliorer cette position-là. Ce serait blasphème de penser cela. Ce n'est pas donc que la position comme telle qu'ils avaient comme croyants n'était pas bonne. Le problème était leur condition spirituelle. Ils n'étaient pas capables d'accepter cet enseignement. Ils n'avaient pas le sens exercé à discerner le bien et le mal. Maintenant, ça c'est le contexte historique pour les Juifs chrétiens dans ce temps-là, mais il faut aussi appliquer cela à nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on dirait de notre condition? Est-ce que nous sommes capables d'entrer dans cet enseignement de l'Épître aux Hébreux ou de l'enseignement du Nouveau Testament par Paul, par Jean, par Pierre? Ils nous parlent tous du Seigneur Jésus. Où est-ce qu'on a besoin? Est-ce qu'on retourne au judaïsme, comme on voit chapitre 6 au début? Malheureusement, dans l'histoire de l'Église, nous voyons que ce n'est pas seulement un problème pour les Juifs chrétiens, qui voulaient retourner au judaïsme. C'est devenu un problème majeur dans l'histoire de l'Église. Prenons le premier verset maintenant. C'est pourquoi, laissant la parole du commencement du Christ, avançons. Paul voulait avancer vers l'état d'Antioche. Il voulait les prendre il voulait leur tendre la main, les prendre à la main et les faire avancer. C'est l'exercice de Paul. Si vous voulez lire Colossiens 1 et 2, par exemple, vous allez voir l'exercice de Paul pour que les croyants puissent grandir. Est-ce que nous avons besoin de grandir? Est-ce qu'on peut dire à un moment donné, non, moi j'ai maintenant atteint le niveau là, le niveau plus haut, j'ai plus besoin de grandir. Non. Si on pense de même, ce serait faux et ce serait stagné. Ce serait vraiment le début d'un regret, d'une baisse. Et Paul voulait prendre les croyants pour qu'ils puissent avancer, pour qu'ils puissent faire des progrès. Pierre le dit dans 2 Pierre 3, croissez dans la grâce, dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et si vous voulez lire Colossiens 1 et 2, Galates 4 par exemple, Paul dit, c'est un autre exemple, que son exercice était comme une mère qui allait enfanter un enfant. Pas seulement ça, la mère voulait que l'enfant grandisse. Est-ce que vous avez jamais vu une mère qui a un petit bébé, elle veut que le bébé reste comme ça, de même? Je n'ai jamais vu une mère de même. Une mère veut que l'enfant grandisse, parce qu'elle sait que si l'enfant ne grandit pas, ça va aller mal. Et ainsi, pour le croyant, si on ne fait pas des progrès à l'école de Dieu, ça va aller mal. C'est pour ça que Paul prend les croyants et il veut les faire avancer. Et dans l'original, le mot « avançons » veut dire, on pourrait traduire comme ça, « soyons portés vers l'état d'entrée ». Donc, il y a un élément là de la dépendance, que Dieu nous aide. Plus loin, on verra aussi l'emphase sur notre côté, verset 11 par exemple, chapitre 6. « Mais nous désirons que chacun de vous montre la même diligence. » Il faut que nous soyons diligents. Mais de notre côté, nous devons aussi réaliser que ça prend une œuvre de Dieu. Et avançons, le mot avançons implique cet aspect-là. Ça prend aussi un travail de Dieu. Pour avancer vers l'état d'homme fait. Mais, Paul dit, ne posant pas de nouveau le fondement de la repentance, ce n'est pas ici pour retourner vers le judaïsme. Le judaïsme connaissait aussi la repentance, le principe de la repentance. Jean le baptiseur avait parlé de la repentance. La repentance des œuvres mortes et ensemble avec cela, la nécessité de la foi en Dieu. Non, Paul ne voulait pas poser un tel fondement. C'était déjà posé une fois pour toutes, ça suffit. Il voulait maintenant avancer, pas retourner, pas reculer, avancer. Au verset 2 de la doctrine des ablutions, c'était donc les façons dans lesquelles, selon la loi juive, les choses devaient être lavées. Beaucoup d'instructions dans la loi de Moïse. Ou l'imposition des mains, comme pour bénir, ou pour s'identifier avec les sacrifices qui allaient être offerts. Comme on voit dans Exode, Lévitique. Non, ce n'est pas ça que Paul voulait présenter. Ou même par rapport aux choses à venir, la résurrection des morts et du jugement éternel. Notons bien ici, il ne parle pas de la résurrection d'entre les morts. Ça, c'est nouveau. Christ a été rejeté d'entre les morts. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Ça appartient au christianisme. Le judaïsme connaissait le principe de la résurrection des morts, comme on voit avec Marc dans Jean 11, lorsque le Seigneur allait ressusciter Lazare. Marc ne comprenait pas vraiment le principe de la la résurrection d'entre les morts. Mais le christianisme est basé sur ce principe-là, la résurrection d'entre les morts. Donc c'est un niveau plus élevé que le judaïsme. Et le jugement éternel, c'est clair, le judaïsme connaissait ça, mais par rapport aux choses à venir, nous avons beaucoup plus d'instructions qui vont beaucoup plus loin que juste cette pensée-là. Donc Paul ne veut pas que les croyants retournent à ce niveau-là. Mais je répète, malheureusement, dans l'histoire de l'Église, on voit que, à beaucoup d'égards, les Églises sont retournées à ce fondement-là. Au lieu d'être attachées à Christ dans la gloire et prendre cette nourriture solide pour les hommes faits. Verset 3, c'est ce que nous ferons. Maintenant, il faut comprendre ce que Paul dit ici. Avançons, verset 1er. Donc, nous voulons avancer, si Dieu le permet. Donc, il souligne le besoin de l'aide de Dieu, d'être dépendant de Dieu, comme j'ai suggéré déjà au début. Mais nous devons avancer, si Dieu le permet. Dieu veut nous aider, ça c'est clair. Mais Paul a réalisé la dépendance de Dieu pour cela. Maintenant, verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés. Maintenant, il va donner quelques points qui soulignent les privilèges que les croyants avaient. Donc, je répète maintenant, les croyants à Jérusalem et en Judée, à ce moment-là, les vrais croyants étaient éclairés. Le mot éclairé revient encore une fois, chapitre 10, verset 32, et là c'est clair que ça s'applique aux vrais croyants, j'ai vu. Chapitre 10, 32. Mais rappelez dans votre mémoire les jours précédents dans lesquels, ayant été éclairés, vous avez enduré un grand combat de souffrance. Vous voyez? Ils étaient éclairés. Un peu comme on voit dans 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, nous voyons comment la gloire de Dieu, le Dieu de gloire, nous a illuminés par la foi. Deuxièmement, qui ont goûté du don céleste. Souvent, dans le passé, j'ai pensé que c'était seulement goûter, mais ça ne veut pas dire qu'il avait mangé. Mais si on compare, par exemple, chapitre 2, verset 9, que le Seigneur Jésus a goûté la mort, est-ce que ça veut dire qu'il a juste touché un peu? Non. C'était vrai pour lui. Et ainsi, tous les passages qu'on voit, ce mot qui est utilisé, goûter, par exemple 1 Pierre 2, verset 3, que nous pouvons goûter la bonté de Dieu, c'est vraiment s'approprier de ces choses. Donc, ici, il parle des croyants qui avaient goûté le don céleste. Donc ça veut dire, au début, ils ont connu Christ dans la gloire. Ils ont réalisé les privilèges qu'ils avaient par rapport à un Christ glorifié. Ils ont goûté cela. Ils se sont appropriés de cela. Et ils se sont identifiés avec l'Esprit de Dieu, devenus participants, comme on a vu dans chapitre 3, verset 1 et 14, participants de Christ, chapitre 1, verset 9 aussi, participants de Christ. Donc un lien intime avec Christ, un lien intime avec l'Esprit de Dieu. Quatrième point, qui ont goûté la bonne parole de Dieu. Ici, c'est le même verbe que au début, là, goûter du don céleste, et maintenant goûter la bonne parole de Dieu. La bonne parole de Dieu, c'est encore avec par rapport à Christ dans la gloire. La position céleste du Seigneur Jésus, c'est la bonne parole de Dieu. Et les miracles du siècle à venir, on sait que dans les actes, on trouve ces miracles. C'est vraiment le siècle à venir, ou le monde à venir, ça veut dire des miracles qu'on verra aussi au début du millénium. Mais les croyants au début, dans les actes, ont vu ces miracles. Et ensuite, qu'est-ce que le verset 6 dit? Qui sont tombés. C'est là la confusion. Un croyant ne peut pas perdre son salut. Ça, c'est clair. Et le passage n'enseigne pas qu'un croyant peut perdre son salut. Le Seigneur l'a dit clairement. Mes brebis écoutent ma voix, et moi je les connais, et elles me suivent, et elles ne périront. Et je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. Le Seigneur a dit cela clairement. Il y a beaucoup d'autres passages qui montrent clairement qu'un croyant ne peut pas perdre le salut. Ça, ce n'est pas le point ici. Qu'est-ce que Paul veut dire ici? Un croyant peut stagner. Un croyant peut retomber dans le judaïsme, dans un système religieux. Il peut nier pratiquement le lien qu'il a avec Christ dans la gloire. Vous voyez, si on dit, ok, ce passage, ça s'applique là à ceux qui professent le nom de Christ, mais ils ne sont pas vraiment nés de nouveau. On limite ce passage. Mais ce passage parle aux croyants pour nous avertir, pour vraiment nous sonder. Est-ce que nous sommes vraiment identifiés avec Christ dans la gloire? Est-ce qu'on veut avancer avec lui? Ou est-ce que nous sommes stagnants? Est-ce que nous sommes satisfaits avec ce que nous faisons? Nous sommes satisfaits avec l'état de l'Église? Tomber ici veut dire, juste un exemple, dans 1 Corinthiens 9 et 10, on voit l'histoire du peuple dans le désert. 1 Corinthiens 9, Paul applique ce principe à lui-même, de ce combat. Il court. Dans Hébreux 12, on va revenir à la course plus tard du volant, si le Seigneur nous laisse encore ici, s'il nous donne une autre occasion. Mais Paul était dans la course. Il dit au verset 26, « Je cours ainsi, non comme ne sachant pas vers quel but. Je combats ainsi, non comme battant l'air, mais je mortifie mon corps et je l'asservis de peur qu'après avoir prêché à d'autres, je ne sois moi-même réprouvé ou disqualifié. » Paul ne voulait pas enseigner ici qu'il pouvait perdre son salut. Il ne voulait pas être disqualifié. Il avait couru dans la course. Il avait prêché. Il avait dit à d'autres gens, « Mais venez avec nous. Courons avec Christ. » Puis là, à un moment donné, il ferait quelque chose qui n'était pas correct. Et là, il serait disqualifié pour continuer dans la course. Et c'est ça l'exemple qu'il donne au chapitre 10. Est-ce que vous pensez que tous ces croyants qui sont sortis de l'Égypte, qui sont tombés dans le désert, comme on voit dans le chapitre 10, c'était tous sous la nuée, tous traversés la mer, baptisés pour mourir, ils ont mangé la même viande spirituelle, ils ont bu le même breuvage spirituel, verset 4, mais ils sont tombés. Pourquoi? Ils ont combattu, ils sont devenus idolâtres, verset 7, ils se sont rebellés, ils ont commis la fornication spirituelle, verset 8, et même physique, verset 9. Il dit, ne tentons pas non plus le Christ comme quelques-uns d'eux l'ont tenté et ont péri par les serpents. Pourquoi le Seigneur a permis cela, qu'il tombe dans le désert? Parce qu'il avait rejeté les pensées de Dieu. On voit cela clairement dans Nombre 13. Les 12 espions sont revenus. Leur rapport était clair. Dieu nous a promis ce pays. Mais les 10 ont dit non. Ça n'a pas de bon sens. On ne peut pas y aller avec ces géants-là. Donc ils n'avaient pas de foi. Ils ne voulaient pas accepter les pensées de Dieu pour eux. Tandis que Josué et Caleb, ils sont allés de l'avant. Ils ne sont pas tombés dans le désert. Le restant, à cause de leur désobéissance, est tombé dans le désert. Est-ce que, je répète la question, est-ce que ça veut dire que tous ces gens-là n'étaient pas nés de nouveau? Non. Le point, c'est que Dieu ne pouvait plus les maintenir comme témoignage. Il avait abandonné le témoignage de Dieu. Il avait abandonné la pensée de Dieu. Ils se sont rebellés. C'est pour ça qu'ils sont tombés dans le désert. Et ici, dans Hébreux 6, c'est le même contexte. Pour revenir au contexte général, Jérusalem serait assiégée par les Romains. Jérusalem serait détruite l'année 70. Dieu ne voulait pas que ces chrétiens juifs retournent au judaïsme. Ils seraient morts, ils seraient tués dans cette situation-là, avec la destruction du temple. Le Seigneur voulait que les croyants sortent, on verra plus tard dans Hébreux 13, qu'ils sortent du camp au lieu de retourner. Ça, c'est le contexte. Donc, un croyant peut retourner au judaïsme, il peut retourner au camp, mais là, il ne va pas faire des progrès. Il s'expose au jugement de Dieu, mais ça ne veut pas dire qu'il peut perdre son salut. Ça, c'est un point très important à comprendre. Le point du verset 7, ah oui, revenons encore au verset 6. Si on fait cela, comme ces croyants ont dit, ok, on va retourner au judaïsme, après les persécutions, on va retourner au christianisme. Non. Si vous faites cela, c'est impossible d'être renouvelé encore à la repentance. Vous ne pouvez pas encore passer à travers cette repentance parce que, en faisant cela, vous crucifiez pour vous-même le Fils de Dieu et en l'exposant à l'opprobre. En retournant au judaïsme, ils ont exposé à l'opprobre le Fils de Dieu, avec cette pensée-là, comme je dis tantôt. Et maintenant, les versets qui suivent, il explique encore la terre qui boit la pluie, donc ça c'est la bénédiction qui vient d'en haut, comme Christ est maintenant dans la gloire, il veut bénir son peuple ici sur la terre, il donne la pluie, comme on voit au verset 4, 5. Qu'est-ce qu'on fait avec cette pluie-là? Est-ce qu'on est de la bonne terre qui va produire des herbes utiles, ou est-ce qu'on va produire des herbes, comme il dit au verset 8, des épines, des chardons? Si on rejette ce lien que nous avons avec Christ dans la gloire, si on retourne dans un système religieux, on porte des épines et des chardons. On s'expose au jugement de Dieu. Je répète, ça ne veut pas dire qu'on peut perdre son salut, mais on s'expose au jugement de Dieu. Au lieu de recevoir la bénédiction de Dieu, à la fin du verset 7. Donc si, ça c'est un principe du gouvernement de Dieu, si nous obéissons, si nous faisons ce que Dieu nous dit, il va nous bénir. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de persécution. Non, ça je ne dis pas, il aurait de la persécution, mais il serait béni à travers tout cela. Tandis que s'il voulait éviter la persécution, il n'aurait pas ses fruits pour la gloire de Dieu, et dans le gouvernement de Dieu, ce serait la malédiction. En se plaçant encore sous la loi de Moïse, il se plaçait sous la malédiction de la loi. Il faut lire Galates 3 là-dessus pour comprendre comment c'était sérieux de retourner au judaïsme. Verset 9, pour encourager les croyants, il dit, mais nous sommes persuadés en ce qui vous concerne, bien-aimé, c'est beau de voir cela, bien-aimé. Il va parler maintenant de trois choses qui sont tellement beaux, l'amour, et aussi l'espérance et la foi. On verra dans les versets qui suivent. Nous sommes persuadés en ce qui vous concerne, bien-aimés, de choses meilleures et qui tiennent au salut. On a le mot salut 7 fois dans cet épître. Le salut qui vient de Dieu. Et Paul était convaincu que les croyants auxquels il s'adressait, ils voulaient suivre cet enseignement au lieu de retourner au judaïsme et rejeter cet enseignement. Mais il fallait qu'ils les avertissent, comme si on marche avec un petit enfant là, à côté du canal, on tient la main et on dit, tiens ma main forte, parce que si tu tombes dans l'eau là, et tu vas mourir. C'est un avertissement. Et si Paul a averti les croyants, ça ne veut pas dire que ils vont suivre ce chemin-là, mais il les avertit de ne pas suivre ce chemin-là. Et puis il ne dit pas que si l'enfant tombe dans l'eau, il va se jeter dans l'eau pour sauver l'enfant. Il ne dit pas ça, parce qu'autrement, il enlèverait la force de l'avertissement. Donc, il donne l'avertissement dans toute sa force pour que les croyants soient vraiment convaincus de suivre cet enseignement. Il ne parle pas de ce que Dieu peut faire encore dans sa grâce, même si on est désobéissant. Il ne parle pas de cela. Et cet amour des croyants hébreux était sincère. Et on a beaucoup de preuves en lisant cette épître que leur amour était sincère. Et Paul les recommande ici. Ils ont montré l'amour pour son nom, ayant servi les saints et les servant encore. Mais il était en danger d'arrêter. Et en suivant l'enseignement de cette épître, on voit que les avertissements deviennent de plus en plus sérieux. Chapitre 10, on verra que les avertissements sont encore plus forts. Chapitre 12, encore plus forts. Parce que Paul avait vraiment peur qu'il ne saisisse pas cet enseignement. Donc, de plus en plus, il enseigne et en même temps, il avertit encore plus fort. Mais il réalise quand même leur amour qui était là, il les recommande. Deuxièmement, au verset 11, mais nous désirons que chacun de vous montre la même diligence pour la pleine assurance de l'espérance. Ici, nous avons l'espérance. On sait que souvent, l'amour, l'espérance et la foi vont ensemble. Vous pourriez étudier là, dans le Nouveau Testament, c'est vraiment édifiant de faire ça. L'amour, l'espérance et la foi vont ensemble. Mais ici, c'est pour souligner maintenant le point de la diligence, le zèle spirituel. Est-ce que nous avons du zèle? Ou est-ce qu'on va dire, oh, quelqu'un d'autre peut le faire? Moi, je vais prendre un break. Ou est-ce qu'on veut vraiment avoir cette diligence? C'est pas facile. Mais Dieu va récompenser cette diligence, ce zèle spirituel. Et voilà, on a vu déjà, ce zèle spirituel, cette diligence, va ensemble avec un travail de Dieu. Si on veut avancer, on a vu le premier verset, et surtout au verset 3, si Dieu le permet, on réalise qu'on a besoin de l'aide du Seigneur. Et les deux vont toujours ensemble. Mon désir de servir Dieu, c'est un bon désir. Votre désir de servir Dieu, c'est un bon désir. Mais on a besoin de son aide. Les deux vont ensemble. Et cette diligence est ici par rapport à la pleine assurance de l'espérance. De nouveau, ça va ensemble avec notre avec la réalisation que nous sommes attachés à Christ dans la gloire et que nous pouvons maintenant continuer jusqu'au bout. Pas lâcher mi-chemin, mais continuer jusqu'au bout. Parce qu'on a cette espérance. Et cette espérance, au verset 18, on verra encore quelques détails qu'on ne peut pas se tromper. Si on met sa confiance en Dieu, il est notre espérance, le Seigneur dans la gloire est notre espérance, on ne va pas se tromper. On verra cela dans quelques versets plus loin. Verset 12, afin que vous ne deveniez pas paresseux. Qu'est-ce qu'on a vu au chapitre 5, verset 11? Qu'est-ce que Paul a dit? Puisque vous êtes devenus paresseux, écoutez. Il veut les encourager maintenant. Il veut qu'ils montrent du zèle spirituel, une diligence. Et ensuite, ils peuvent imiter ceux qui par la foi et par la patience héritent ce qui avait été promis. Ça, c'est l'exemple des croyants, comme j'ai dit tantôt, Caleb, Josué, par leur foi, par leur patience, ils sont entrés dans le pays. Dieu les a récompensés. On peut penser à Abraham aussi. Abraham a dû patienter beaucoup. Il a donné une promesse. Ça a pris 25 ans avant que la promesse soit accomplie. Son fils aîné. Ensuite, Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils, sacrifie-le. Et Abraham a compris que Dieu allait le ressusciter si Dieu avait demandé qu'il le sacrifie vraiment. Donc Abraham a connu cette patience et cette confiance en Dieu. Maintenant, c'est notre tour. À ce moment-là, ceux qui ont reçu cette épître, aujourd'hui, c'est nous. Est-ce que nous voulons imiter ceux qui, par la foi et par la patience, ont hérité ce qui avait été promis? Donc, je répète, il y a un autre élément qui s'ajoute, c'est la patience. L'amour, l'espérance, la foi, et maintenant, un nouvel élément, la patience. Ça veut dire continuer. Continuer. Le mot ici implique la longanimité. Donc, avoir beaucoup de patience et de ne pas se venger. Si quelqu'un fait quelque chose, je ne vais pas me venger, je mets ma confiance en Dieu. C'est cette patience-là que nous voyons en Caleb et Josué, et surtout aussi en Abraham. Et ainsi, ils ont hérité ce qui avait été promis. Maintenant, il va parler de la promesse, verset 13. Et maintenant, on va voir trois choses. La promesse, verset 13. Ensuite, le serment qui confirme la promesse. Et ensuite, une ferme consolation par l'espérance proposée à la fin du verset 18. Donc, la promesse. Est-ce que la promesse est suffisante? Bien sûr. Si Dieu donne une promesse, c'est suffisant. Dieu fit la promesse à Abraham, puisqu'il n'avait personne de plus grand par qui jurer, il jura par lui-même. Donc la promesse est confirmée par un serment. Certes, en bénissant, je te bénirai, et en multipliant, je te multiplierai. C'est pour bénir. On n'a pas le temps maintenant de vérifier cela. Il y a plusieurs occasions où Dieu a juré par lui-même. On comprend, si quelqu'un doit jurer aujourd'hui devant les autorités, c'est parce qu'on jure par quelqu'un qui est plus grand. C'est par Dieu, il est plus grand que nous. Et puis là, on confirme notre parole par ce serment d'une autorité plus grande. Mais Dieu, par rapport à Dieu, est-ce qu'il y a une autorité plus grande que Dieu lui-même? Non. Donc, Dieu a juré par lui-même. C'est pour confirmer la bénédiction. Et ainsi, au verset 15, ainsi Abraham ayant eu patience, on a parlé de la patience, c'est encore la même pensée, la longanimité, obtint ce qui avait été promis. J'ai dit que ça a pris 25 ans. Verset 16, car les hommes jurent par quelqu'un qui est plus grand qu'eux, et le serment est pour eux un terme à toute dispute, pour rendre ferme ce qui est convenu. Donc c'est encore pour confirmer. Si Dieu a promis quelque chose, il va l'accomplir. Terme de dispute. Verset 17. Et Dieu voulant en cela montrer plus abondamment aux héritiers de la promesse l'immutabilité de son conseil. Donc ça veut dire, si Dieu avait donné une telle promesse, cette promesse ne pouvait pas être changée. Si Dieu avait un tel plan, le mot conseil veut dire plan, ou propos, si Dieu s'était proposé cela, il ne pouvait pas changer cela. Ça nous parle de cette immutabilité de Dieu. Dieu ne peut pas agir d'une façon croche, c'est impossible. Verset 17, à la fin, donc Dieu confirme cela par un serment. Et on va revenir au serment aussi plus tard par rapport à l'ordre de Melchisédek. C'est pour ça que je pense qu'il parle aussi en beaucoup de détails d'un serment. Parce qu'on verra plus tard, chapitre 7, que le Seigneur Jésus est maintenant sacrificateur sur l'ordre de Melchisédek par rapport à ce serment de Dieu. Verset 18, afin que par deux choses immuables, donc et la promesse et le serment, dans lesquels il était impossible que Dieu mentît. Dieu ne peut pas mentir s'il donne une promesse. Et c'est encore confirmé par le serment. Nous ayons une ferme consolation. Le mot consolation ici veut dire aussi encouragement. Dans la prière, je pense, notre frère a utilisé ce mot encourager, le Seigneur veut nous encourager. Il veut donner une ferme consolation, une ferme encouragement. Pourquoi ? Pour qu'on puisse aller dans ce chemin-là, comme on a dit tantôt. Il veut qu'on avance. C'est pour ça qu'il encourage. Nous, qui nous sommes enfouis, qu'est-ce que ça veut dire ? Le contexte juif maintenant. Qu'est-ce que Pierre a dit dans Actes 2 ? Que Dieu voulait les... Il faut que je vérifie. Je voulais confirmer. Le Seigneur avait prié à la croix, Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur. Et par cela, Dieu allait leur donner une ville de refuge. Sauvez-vous de cette génération perverse. Ils étaient coupables comme nation de la mort de leur Messie. Le Seigneur, et puis, si on lit les évangiles, on voit que c'est vraiment meurtre. Les gentils étaient aussi coupables, évidemment. Mais sur la base de la prière du Seigneur Jésus, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, Dieu, dans sa grâce, a donné la possibilité de la ville de refuge. Dans l'Ancien Testament, nous voyons que si quelqu'un avait tué quelqu'un par accident, il fallait qu'il aille à la ville de refuge. Autrement, le vengeur pourrait le tuer. Mais s'il se rendait à la ville de refuge, il serait en sécurité. Et ainsi, les Juifs qui étaient donc coupables de la mort du Seigneur Jésus, à cause de la prière du Seigneur Jésus, Dieu ne les voyait pas comme meurtriers, mais comme coupables d'avoir tué quelqu'un, il avait la possibilité, le peuple juif avait la possibilité de la ville de refuge. Et cette ville de refuge, on voit ici, dans Hébreux 6, verset 18. Nous qui nous sommes enfuis. Les Juifs dans Actes 2, sauvez-vous de cette génération perverse. Ils sont entrés dans la ville de refuge, dans l'assemblée, dans l'église. Et ensuite, beaucoup d'autres se sont réfugiés là, comme on voit dans le livre des Actes, pour saisir l'espérance proposée. Mais dans ce contexte-là, vous comprenez, s'ils voulaient maintenant sortir de l'église, sortir de la ville de refuge, il serait sous le jugement de Dieu, malgré le fait qu'il était de vrais croyants. Il se plaçait sous le jugement de Dieu quant à ses voies gouvernementales pour cette terre et pour ce monde. C'est pour ça qu'il fallait rester dans la ville de refuge, pour saisir l'espérance proposée. La ville de refuge nous met en contact avec le monde à venir. C'est pour ça qu'il y a une espérance proposée. Et aussi, on voit dans les détails de l'Ancien Testament qu'ils étaient en sécurité et seulement après la mort du souverain sacrificateur, ils pouvaient sortir de la ville. Verset 19, « Laquelle nous avons comme une ancre de l'âme. » Donc cette sécurité par rapport à l'ancre. Quelquefois, on rencontre des gens qui n'ont pas l'assurance du salut. Et ils sondent les Écritures, ils se posent des questions. On pourrait dire ils mettent l'ancre en eux-mêmes. Ils mettent l'ancre dans leur propre bateau. Ainsi, on n'aura jamais l'assurance. Mais qu'est-ce que l'auteur veut dire ici ? Christ est notre ancre. Et nous devons nous identifier avec lui. Il est l'ancre de l'âme. Et il est allé déjà dans la gloire. On parlait tantôt de la gloire. Il est entré dans la gloire. Et il est là notre ancre. Donc c'est solide, c'est stable. Ça parle de cette sécurité. Malgré le fait que l'élément de l'espérance est là encore. Parce que nous ne sommes pas là encore. Il est allé avant nous comme le précurseur. On verra tantôt. Et cette ancre est sûre et ferme, pas de doute, et c'est la stabilité qui entre jusqu'au dedans du voile. Vous voyez le lien avec le ciel? Dans le judaïsme, il ne pouvait pas entrer au dedans du voile. Mais dans le christianisme, on peut entrer jusqu'au dedans du voile, parce que qui est là? Jésus est là. C'est une des neuf passages, un des 9 passages, nous voyons juste le nom Jésus. Jésus est présenté ici dans toute sa beauté, dans toute sa magnificence, dans sa suprématie. Jésus suffit pour vous, pour moi. Il est là, il est entré comme précurseur. Qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un entre comme précurseur, ça veut dire les autres vont suivre. Si je mets ma confiance en lui, l'encre qui est déjà là, dans le précurseur, ça veut dire que moi je vais aller là aussi. Je mets ma confiance en lui, il est là comme précurseur, et ça veut dire moi je vais être là aussi. Et il est là, au-dedans du voile, donc dans le lieu très saint, comme souverain sacrificateur. Pas comme Aaron qui pouvait entrer seulement une fois par année, il est là tout le temps, pour l'éternité, parce qu'il est là selon l'ordre de Melchisédek. Verset 20 à la fin. Donc nous avons beaucoup de choses merveilleuses par rapport au Seigneur Jésus. Il confirme, il est vraiment la promesse de Dieu est par rapport à lui. Le conseil de Dieu est par rapport à lui. L'immutabilité du conseil de Dieu est par rapport à lui. Et ainsi, Dieu veut nous donner une ferme consolation pour qu'on puisse avancer et pour qu'on puisse rester dans la ville de refuge et qu'on puisse aussi jouir du lien que nous avons avec Christ dans la gloire. L'encre de l'âme sûre et ferme au-dedans du voile. On verra plus loin que le Seigneur Jésus veut nous introduire pratiquement aussi dans le lieu très saint, comme sacrificateur, comme grand sacrificateur. Il veut nous introduire là aussi pour que nous puissions jouir de la communion avec Dieu déjà maintenant. Ça, c'est déjà impliqué ici dans cette phrase. Il est là, ça veut dire que mon cœur est là, ça veut dire que ma joie est là. Et ainsi, nous sommes attachés à Christ qui est là, quoi que nous soyons encore ici sur la terre. Et il est là pour prendre soin de nous parce qu'il est le souverain sacrificateur. Donc la prochaine fois du voulant, on va parler plus en détail de son service comme souverain sacrificateur. Et deuxièmement, on va parler aussi de cet ordre de Melchisédek. Mais je souligne maintenant l'expression « pour l'éternité ». On a vu cela, chapitre 5, verset 6. Comme il dit aussi dans un autre passage, tu es sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Ainsi, nous voyons donc la suprématie de cet ordre de sacrificature que le Seigneur Jésus a maintenant dans la gloire. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que le passage est très difficile, surtout le début, là, et puis on peut facilement avoir des malentendus. Et je ne dis pas que ce que j'ai dit, c'est le dernier mot. Mais mon exercice était d'essayer de présenter ce passage comme quelque chose qui peut nous encourager, qui peut nous motiver pour aller de l'avant, pour avancer, pour grandir, pour faire des progrès et pour produire du fruit, comme on a vu au verset 7. Que le Seigneur nous aide.
Quel tu as mentionné à travers le jugement de Dieu? Parce que juste pour tout ce qu'on prend bien, il n'y a pas du gouvernement de Dieu sur la terre.
Oui.
On parle les voies du bien, de ton bien. Oui.
Non. La discipline.
Exact. Parce que les problèmes, le fait de ton bien, le jugement est pas mal.
Le Seigneur Jésus a porté le jugement pour nous une fois pour toutes. Donc un croyant ne peut pas être exposé au jugement de cette façon-là. Mais s'il est désobéissant, il s'expose au jugement de Dieu dans ses voies gouvernementales, dans sa discipline. C'est ça que je voulais dire.
Parole du commencement,
oui.
Qu'est-ce qu'on va entendre de façon inspirée par
C'est bon, tu poses la question parce que j'avais voulu dire quelque chose là-dessus, mais j'ai oublié. Dans Jean 4, le Seigneur parle à la femme samaritaine, il lui dit, le salut vient des Juifs. Et ainsi, le commencement du Christ, ça parle de sa vie sur la terre, ça implique aussi le ministère de Jean le Baptiseur qui avait annoncé la venue du Christ. Mais c'est par rapport au judaïsme. Tandis que l'exercice de Paul et l'enseignement de Paul, ça va beaucoup plus loin, ça va maintenant, c'est par rapport à Christ dans la gloire. Et c'est pour ça qu'il dit, on laisse la parole du commencement du Christ, on veut avancer vers l'état d'homme fait, c'est par rapport à Christ dans la gloire. C'est comme ça que je le vois.
Un peu comme les épîtres
vont
plus
loin
que les évangiles.
C'est ça. Puis si on rencontre quelquefois des croyants qui disent, pour moi c'est l'évangile là, puis ça finit. Non, ça finit pas. Ça, c'est pas suffisant. L'évangile est très riche et puis on va toujours retourner à l'évangile. Mais on a besoin des épîtres pour comprendre notre lien avec Christ dans la gloire, qui n'est pas enseigné dans les évangiles. C'est pour cela qu'on a vraiment besoin de comprendre ce point-là. Peut-être un mot à souligner encore pour notre sécurité. À la fin du verset 19, au début du verset 19, laquelle nous avons. Ce serait intéressant de voir tout ce que nous avons dans cette épître. Et puis ça aide pour notre sécurité. Nous avons un grand souverain sacrificateur. On a vu cela dans le chapitre 4. Ici, nous avons une ancre de l'âme. Et on a vu, c'est encore pour nous aider, pour nous donner l'assurance et la solidité. Et plus loin, on verra chapitre 8, nous avons un tel qui est ministre du sanctuaire. Chapitre 10, verset 19, nous avons la confiance pour entrer. Nous avons une nuée de témoins, chapitre 12, verset 1. Et ainsi, nous avons un autel, chapitre 13. Nous avons un autel. Donc il y a beaucoup de choses que nous avons. C'est pour confirmer ce que nous sommes comme chrétiens et ce que nous pouvons jouir comme chrétiens. Nous avons. Ce n'est pas qu'un jour on va l'avoir, non, nous avons. Et vous comprenez, il y a beaucoup de détails, mais moi je voulais me limiter la grande ligne pour qu'on puisse, avec l'aide du Seigneur, saisir un peu la grande ligne du chapitre. Oui. Il faut peut-être, je peux ajouter à ça, il faut prendre d'abord le contexte de toute l'épître et on voit qu'il s'adresse aux croyants en général. Deuxièmement, il faut aussi prendre tout l'enseignement de la Bible qui montre que la Bible n'enseigne pas que le croyant peut perdre son salut. Donc il faut toujours garder l'enseignement global de la Bible si on va interpréter un tel chapitre. Mais, et puis le contexte direct c'est qu'il voulait retourner dans le judaïsme à cause de la pression des persécutions. Et on peut l'appliquer à nous. Il y a des tendances tout le temps et des tentations pour nous aussi. C'est plus facile d'aller à une église ou avoir les choses organisées comme dans l'église catholique. C'est beaucoup plus facile. Mais c'est encore un choix qu'on doit faire. Est-ce qu'on va s'identifier avec Christ dans la gloire avec toutes les ressources que nous avons avec lui par le Saint-Esprit, par la parole, ou est-ce qu'on va se soumettre à un système de l'homme? C'est un choix que nous devons faire. Et puis, là, c'est aussi toujours la question, est-ce qu'on veut avancer, est-ce qu'on veut faire des progrès spirituels? les œuvres mortes du premier verset, j'ai pas mentionné, mais je le vois maintenant. Les œuvres mortes, on les voit aussi au chapitre 10, verset 14, sont les œuvres qui se font sous la loi. Non, c'est un peu plus loin. Mais les œuvres mortes peuvent dire que ces œuvres, même s'ils sont des œuvres selon la loi, ne peuvent pas sauver, ne peuvent pas nous justifier. Donc moi je peux faire un effort sous la loi de Moïse, je peux faire toutes les instructions de la loi, mais ce sont quand même des œuvres mortes. Ça ne peut pas m'aider comme chrétien. Mais j'espère que ce chapitre soit quand même un encouragement pour nous, pour avancer et pour suivre le Seigneur Jésus et pour mettre notre confiance en lui jusqu'à ce qu'il vienne.